Sud Radio CCA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CCA La France, votre émission préférée, enfin je l'espère. Et comme tous les dimanches, on met en avant cette France qui bouge, qui innove, qui crée. Et là, en l'occurrence, qui innove pour lutter contre le cancer dans le cadre de la 27e édition d'Octobre Rose, ce mois qui est désormais destiné à sensibiliser au cancer du sein, à informer sur le dépistage précoce pour lutter justement contre ce cancer. Tout à l'heure, vous découvrirez une femme entrepreneuse qui, en 2013, a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein agressif. Après l'avoir combattu, elle décide, 4 ans plus tard, de créer une marque de cosmétiques destinée à accompagner les femmes justement fragilisées par ces cancers. Mais tout de suite, je vous propose de nous intéresser à une start-up française qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les chercheurs. C'est une approche révolutionnaire. On en parle tout de suite dans notre France qui innove.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove.
Bonjour Thomas Clauzel.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes le cofondateur de Hawkin, j'espère que je prononce bien le nom de cette start-up créée en 2016 qui utilise l'intelligence artificielle en médecine pour aider donc les chercheurs. Vous, vous êtes médecin de formation, c'est ça? Vous êtes ancien chef de clinique?
Ouais, tout à fait.
Ça a été fondé dans...
en hématologie.
En hématologie. Vous l'avez fondé avec Gilles Wenrip, si je prononce bien son nom, qui lui était maître de conférence en informatique appliquée, donc rien à voir, deux savoir-faire complémentaires.
Ouais, exactement.
Alors expliquez-moi en quoi l'intelligence artificielle est un véritable atout pour les chercheurs.
Alors en fait, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a deux pendants à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est l'accélération, ça veut dire qu'on essaie d'accélérer des process. Faire un diagnostic en une journée ou quelques heures versus plusieurs jours, par exemple, en anatomopathologie, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ou alors aider les radiologues à vraiment enchaîner les diagnostics très rapidement de façon automatique. Le deuxième pendant, c'est l'augmentation. C'est vraiment aider les chercheurs et les médecins à avoir des super pouvoirs, à faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Par exemple, prédire la réponse à un traitement à partir d'un scanner du poumon.
Ouais.
Essayer de comprendre quel est le savoir qu'il y a derrière cette prédiction. Et c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, un radiologue, il peut faire un diagnostic et ne peut pas prédire si un patient va répondre ou non à des traitements anticancéreux. Et vraiment, il y a ces deux pendants à l'intelligence artificielle en médecine, accélérer le diagnostic, rendre automatique des process, et l'autre qui est vraiment donner des super pouvoirs à ces chercheurs.
Donc, gagner effectivement du temps. Si on prend un exemple concret, en octobre dernier, vous avez présenté dans une revue Nature Médecine une solution de prédiction pour le cancer touchant notamment les poumons, un cancer agressif qui touche les poumons.
Exactement, ça s'appelle le mésothélium. Oui, alors le mésothélium, c'est un cancer qui est très très grave. Les gens meurent en quelques mois. Et c'est un cancer qui était lié à l'asbestose, hein, qui est le charbon des mines, qui abîme la plèvre, qui est la paroi du poumon. En fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à prédire la survie des patients en utilisant des images d'anatomopathologie? Donc, c'est des images de biopsie qui sont nécessaires au diagnostic de ce cancer-là. Donc, imaginez que vous donnez cette image-là à un médecin, un anatomopathologiste, un médecin. Lui, il peut faire un diagnostic. Il ne peut pas vous dire si le patient va vivre un certain nombre de mois ou s'il va répondre à la chimiothérapie qui est donnée classiquement dans cette situation.
L'intelligence artificielle peut répondre à ça.
Alors, l'intelligence artificielle, notre modèle de réseau de neurones arrivait en prenant l'information de l'image à prédire cette survie. Et surtout, le plus intéressant est à comprendre comment est-ce qu'on arrivait à faire cette prédiction-là. Et on a découvert notamment que c'était grâce au micro-environnement, qu'on appelle le stroma de la tumeur, la périphérie de la tumeur, qu'on arrivait à faire cette prédiction. Et ça, cette découverte biologique, c'était en fait quelque chose qui était dans la tête de beaucoup de médecins spécialistes du domaine, mais on a réussi à le confirmer grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est là où c'est vraiment génial, c'est qu'on arrive à avoir du nouveau savoir. Il faut savoir que ce que l'ordinateur voyait dans ces images, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas voir. En anglais, on appelle ça la computer vision. L'ordinateur arrive à voir dans les images de biopsie des choses que les médecins, eux, ne peuvent pas voir avec leurs propres yeux.
Et à côté de ça, cette plateforme Hawkin permet de connecter donc scientifiques, chercheurs, industrie pharmaceutique. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous décloisonnez justement la recherche à travers cette plateforme?
Exactement, c'est vraiment exactement ça. En fait, on a été vraiment les pionniers d'une technologie qui s'appelle le Federated Learning, qui est une technologie qui permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle dans les hôpitaux sans que les data aient besoin de sortir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de data d'hôpitaux dans le monde entier qui vendent des data. Les data sortent des hôpitaux et du coup, il y a un risque qu'on puisse réidentifier les patients. Nous, en fait, on a une technologie qui nous permet de garder les data de façon, en respectant les données des patients, en respectant aujourd'hui, il y a un flou aussi sur la loi de savoir à qui appartiennent même les données des patients.
Hein. Bah, ce sont des données cliniques, hein, avec les scanners, les biopsies, vous en avez de ces données, mais c'est des données sensibles, privées. Donc, effectivement, il faut assurer la protection des patients.
Exactement, et surtout en fait en France, il y a encore un flou sur à qui appartiennent ces données. Si vous faites un scanner à l'hôpital de la Cité-Salpêtrière à Paris, est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça appartient à l'hôpital ou alors aux deux? C'est pas encore très clair dans la loi française. Et donc nous, on part du principe que pour donner confiance, on préfère qu'on installe une infrastructure localement et que l'intelligence soit entraînée localement. Et ça permet ensuite à l'algorithme, lui, de voyager. Mais les data restent sur place. Et donc du coup, ça respecte la donnée privée des patients, mais ça aussi décloisonne complètement, ça casse le silo de compétition qui existe en recherche, évidemment, pour que les gens puissent collaborer. Et aujourd'hui, par exemple, on a un projet qui s'appelle le projet Mélodie, qui est un projet où 10 des plus grandes industries pharmaceutiques du monde collaborent pour améliorer la découverte de médicaments sans partager leurs data, qui sont évidemment très propriétaires et très secrètes. Et c'est vraiment de l'open innovation. On ouvre les silos et on casse les barrières de compétition pour avoir un savoir global qui englobe aussi l'hétérogénéité des patients. Et ça, c'est vraiment super et c'est tout à fait nouveau.
Alors, votre start-up, elle a été créée en France. Aujourd'hui, elle se développe où ça ? Aux États-Unis, c'est bien ça ?
Oui, on est franco-américain, on est aussi présent en Angleterre. On a vraiment une position très forte en Europe pour avoir travaillé avec les centres de données européennes et les centres hospitaliers. Donc, on est en train de développer également en Allemagne, en Espagne, notamment pour le coronavirus. On a créé un consortium basé sur cet respect des données des patients, ou des centres aux Pays-Bas, avec des centres français, des centres espagnols, des centres portugais. Il faut voir que non seulement on peut capturer plus de data, on peut avoir accès à plus de data, même si on ne les prend pas, et entraîner nos modèles sur des data très différentes. Ouais. Donc ça, il faut que l'intelligence artificielle marche sur différentes populations. Et ça permet aussi, surtout, d'avoir des médecins spécialistes dans différents pays, et d'ajouter de la mixité, des savoirs différents pour ensuite avoir une vision critique et intéressante de ces modèles d'intelligence artificielle et faire des découvertes qui soient validées par des gens de background très différents.
Comment on se situe, nous, en France, justement, sur ce secteur de ce qu'on appelle la medtech par rapport aux autres pays?
En fait, en France, on est extrêmement bon dans tout ce qui est lié aux mathématiques. On est un peu moins bon en biologie. Alors, on a des très bons savoirs et le prix Nobel de hier le prouve.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements. On a vu.
Elle reprochait le manque d'investissement effectivement financier en France.
Ouais,
et c'est une des raisons pour lesquelles elle a dû partir.
Elle a complètement raison, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, vous êtes au CNRS, à l'INSERM, vous gagnez très peu d'argent. La recherche est compliquée, il y a des gens extraordinairement brillants, mais il n'y a pas d'investissement. On n'a pas investi non plus dans le matériel médical, c'est pour ça que, contrairement à l'Allemagne, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans cette situation de un peu laisser pour compte dans le cas du coronavirus.
Ouais.
Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de talents partent à l'étranger parce que, il faut savoir qu'on s'est pareil pour la médecine, ou la médecine publique, des gens gagnent très très peu d'argent, n'ont pas vraiment la possibilité de faire du privé. Donc on est encore dans des paradigmes de médecine sociale et tout ça, et de recherche pour le bien du pays, mais aujourd'hui, de façon pragmatique, la France est en retard au niveau de la biologie. Par contre, au niveau des mathématiques appliquées, où il y a besoin de beaucoup moins d'argent d'ailleurs et d'investissement, on a des gens hyper brillants. Et les mathématiciens français sont extraordinaires. Peut-être qu'il y a une capacité d'attraction qui je ne sais pas pourquoi, en fait. Les mathématiciens français sont si bons, mais ils le sont.
Alors, dernière petite question, quelle est la prochaine étape pour Aucune?
En fait, pour Aucune, c'est vraiment continuer à créer cet environnement fédéré de recherche pour faire des découvertes, pour aller essayer de comprendre mieux pourquoi certains patients résistent à des maladies graves, comme le mésothéliome ou le cancer du sein. Hein, le cancer du sein, il y a encore des maladies peu comprises. Il y a un cancer du sein qui s'appelle, c'est bientôt octobre rose, qui s'appelle le cancer du sein triple négatif. On le définit par la négative, on sait qu'il n'est pas positif à différents récepteurs. Mais ça veut dire qu'on n'a vraiment pas compris ce que c'était, on sait ce que c'est pas.
Ouais.
C'est pareil pour certains cancers du poumon qui ne sont pas à petites cellules. Il y a vraiment besoin d'un grand savoir. L'intelligence artificielle, quand elle est interprétable, peut apporter de nouveaux éléments de savoir, faire de nouvelles prédictions, essayer de mieux comprendre. Et ça doit se faire de façon globale, en respectant les données des patients. Et c'est vraiment la mission d'Aucune. Et c'est pour ça qu'on est tous très mobilisés.
Merci beaucoup, Thomas Clauzel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Aucune, cette start-up qui a été créée en 2016. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci, Nathalie.
Et bon dimanche. Au revoir. Allez, on va se quitter un court instant et juste après, on ira justement découvrir une entreprise de cosmétiques qui propose des produits de soins de qualité adaptés à des personnes fragilisées par un cancer. À tout de suite.
Sud Radio CSA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français. Il est temps de découvrir notre femme entrepreneuse qui, en 2013, a appris qu'elle est atteinte d'un cancer du sein agressif et après l'avoir combattu, elle a créé 4 ans plus tard une marque de cosmétiques justement destinée à accompagner les femmes atteintes d'un cancer du sein.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et j'en profite pour rappeler qu'en France, le cancer du sein touche une femme sur 8. C'est le premier cancer devant celui des poumons. C'est aussi l'un des plus mortels avec plus de 620 000 personnes qui en meurent chaque année. Bonjour Isabelle Guillaume-Arch.
Bonjour.
Vous êtes présidente du groupe CCI Productions, l'un des principaux fabricants de parfums, de produits cosmétiques haut de gamme. Comme je le disais, vous avez été touchée personnellement par un cancer du sein agressif. D'ailleurs, sur votre site, vous qualifiez de cancer survivor. Vous avez réussi à le combattre. Et vous êtes surtout rendu compte que finalement de l'impact de la maladie sur le corps, sur la peau, sur le peu d'offres de produits adaptés.
Oui, tout à fait. Je crois que ces traitements qui nous sauvent la vie, car il faut aussi le dire, les progrès de la science ces dernières décennies, tout particulièrement dans le cancer du sein, sont considérables. Ces traitements qui nous sauvent la vie altèrent l'image de nous-mêmes au point que parfois on en perd l'estime de soi. Oui, ouais. Tout à fait.
Donc vous êtes entouré de chercheurs et pendant 3 ans, vous avez réalisé des recherches pour mettre au point une gamme de cosmétiques adaptés. Donc il a fallu se réinventer, c'est ça, trouver des substituts à ce que vous utilisez habituellement dans la cosmétique.
Oui, les produits, y compris d'excellente qualité, qui sont à disposition, n'ont actuellement pas été pensés spécifiquement pour le cancer. Donc il faut chercher au sein de multiples marques les produits adaptés. L'originalité et l'innovation d'Ozalis, c'est d'avoir une gamme complète d'hygiène et de soins qui permettent aux femmes et d'une façon générale d'ailleurs à toutes les personnes affectées par les effets secondaires des traitements anticancéreux, de ne pas se poser de questions et d'avoir des produits qui ont été pensés spécifiquement pour eux, y compris dans les interactions médicamenteuses que l'on peut avoir avec l'ensemble des traitements anticancéreux. Je pense notamment à la photosensibilisation. Ouais. Ce sont des molécules très photosensibilisantes, les anticancéreux. Et donc toute la gamme, par exemple, a été pensée pour être non photosensibilisante. Donc c'est un ensemble de produits qui va du bain de bouche jusqu'à la brume hydratante.
C'est ça, c'est le soin à l'avant, le soin hydratant. Il y a la peau, il y a les muqueuses, il y a les cheveux, les poils, les ongles qui sont justement fragilisés.
Oui, parce que ces molécules ne savent pas cibler. Elles ont pour objectif de, entre guillemets, stériliser le corps de toutes les cellules cancéreuses. C'est un objectif qui est parfaitement atteint. Et malheureusement, au milieu, il y a les cellules et celles de la peau et des muqueuses sont tout particulièrement atteintes par les chimiothérapies, mais aussi par l'hormonothérapie, dont on parle moins, c'est-à-dire que pendant entre 5 et 10 ans après un cancer du sein, les femmes vont... Je dis bénéficier parce que ce sont des traitements très importants qui contribuent à sauver les vies puisqu'ils limitent les récidives. Mais ce sont aussi des molécules qui vont plonger les femmes dans une ménopause profonde avec des effets secondaires sur la peau et les muqueuses importants.
Et il y a notamment aussi en période de Covid, le fameux gel hydroalcoolique qu'on doit tous utiliser. Là encore, heureusement finalement qu'Ozalis a développé un gel qui soit adapté à ces peaux fragilisées.
En fait, Ozalis se distingue aussi par une charte de formulation unique. Nous excluons bien sûr l'ensemble des ingrédients et molécules controversés. Mais nous allons au-delà des lois, c'est en cela que nous sommes une marque sociétale, c'est-à-dire que nous bannissons l'ensemble des ingrédients qui vont se comporter comme des hormones ou qui vont perturber le système endocrinien. Et le meilleur exemple, ce sont les phtalates.
Et dans la solution,
les phtalates.
Ah oui, d'accord.
Les phtalates que l'on retrouve dans les plastifiants, notamment, et que l'on retrouve aussi dans la dénaturation de l'alcool pour les produits hydroalcooliques. Ouais. Et donc, en s'inscrivant au service de la santé publique durant la période Covid, bien sûr, lorsque l'on a fabriqué la solution hydroalcoolique de l'OMS. Nous avons, compte tenu de notre patientèle et notre charte de formulation, nous avons supprimé là aussi les phtalates dans cette formule. Donc elle est elle s'inscrit maintenant dans la gamme Osalis, qui s'appelle le soin protecteur, et elle est particulièrement adaptée à ces femmes qui ont, en règle générale, 80% des cancers du sein, puisqu'on est au mois d'octobre, sont hormonosensibles, hormonodépendants. Donc ouais. Le système endocrinien est clé dans la recherche pour Osalis.
Alors vous le disiez, hein, c'est une marque sociétale, mais ça va bien au-delà justement de la création de produits de soins. C'est aussi une façon pour ces femmes qui ont été fragilisées de retrouver leur féminité, les gestes du matin, de retrouver ce bonheur de pouvoir s'appliquer une crème hydratante qui va faire du bien à sa peau. Puis il y a le geste effectivement du matin, quoi, ce qu'on aime là, qui nous rappelle qu'on est coquette.
Oui, et prendre soin de soi, c'est une première victoire contre la maladie.
Ouais, c'est vrai.
J'ai l'habitude de dire qu'avoir un cancer, c'est avoir une gastro-entérite et une grippe en même temps.
Oula.
Et là, les gens qui n'en ont pas eu, voilà, ont cette réaction. Oula. Et finalement, nous savons tous que lorsque, enfin, on se lève et on prend une douche, on se sent propre, on se dit « ça y est, je suis guérie, je vais mieux
ouais. ».
Eh bien, lorsque vous affrontez les traitements anticancéreux, vous êtes dans cette situation chaque matin.
Bien sûr.
Et la salle de bain devient, alors qu'elle est un lieu de plaisir où on prend soin de soi, la salle de bain devient un lieu de douleur physique et de douleur morale.
Ouais.
Et l'objectif d'Osalis, c'est d'aider ces femmes à prendre soin d'elles en toute sécurité et de contribuer à ce qu'elles puissent se relever, se reconstruire, retrouver leur image d'elles-mêmes.
Et le moral, le mental pour combattre ce cancer. Donc ça participe à redonner de la force peut-être d'une certaine façon.
Oui, c'est une forme c'est un luxe qui a été pensé pour elle. C'est un luxe essentiel. C'est contribuer, aider à ce que elle puisse, retrouver cette énergie qui parfois certains jours manque. Trouver cette énergie pour s'occuper d'elle, se relever de cette épreuve qu'est le cancer.
Isabelle Guillemarche, dernière petite question. La marque aujourd'hui, elle est présente dans quoi, une trentaine de pays?
Oui, Osalis conquiert depuis près de 3 ans le cœur des femmes et le cœur des soignants. Osalis, c'est déjà 8 prix de la profession en moins de 30 mois, donc 8 awards et reconnaissance.
Ouais.
Et puis, nous sommes présents maintenant dans plus d'une trentaine de pays, 34 à ce jour, des Balkans jusqu'à l'Asie. Donc c'est une aventure et c'est une marque qui est destinée à aller vers toutes les femmes, vers les femmes du monde entier. Vous l'avez dit, c'est 600 000 décès chaque année dans le monde. Et au-delà du cancer du sein, c'est 18 millions de personnes affectées par le cancer chaque année dans le monde.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Isabelle Guillemarche. Et un grand bravo à vous et vos équipes. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Osalis, cette marque justement qui a été pensée pour être adaptée aux femmes atteintes de cancer, aux femmes qui ont justement leur corps fragilisé. Merci beaucoup, Isabelle Guillemarche, et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
Bon dimanche.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
C'est l'heure de retrouver Thibault, notre French Trotter. Alors, comme on vous l'avait promis, on retourne au salon Vélo in Paris, qui met en avant les dernières tendances dans le monde du cycle, ou de cycle. Alors, la crise sanitaire n'a pas trop perturbé justement ce salon, Thibault ?
Ben non, en fait, il a pu se tenir avec une jauge limitée à 5000 personnes par jour. Les organisateurs ont eu de la chance que ça diminue depuis. Et bien entendu, avec les mesures de précaution, comme le masque et le gel hydroalcoolique à l'entrée. Et heureusement qu'il ait lieu, ce salon, car depuis le déconfinement, comme vous le savez, on assiste à un vrai boom de la bicyclette.
Alors justement, il en est où exactement le vélo du marché aujourd'hui ?
Eh bien, j'en ai discuté avec Jonathan, que j'ai rencontré, qui est responsable sud-ouest pour les marques Gitane et Peugeot. En gros, la demande explose, mais les marques ont vraiment du mal à suivre en raison des problèmes d'approvisionnement. Mais écoutez plutôt.
Le marché aujourd'hui, il est comme en règle générale chez toutes les marques, c'est assez compliqué d'avoir du vélo en magasin.
Ouais. La demande a explosé.
La demande a explosé. On a des niveaux qui ne sont pas équivalents en termes d'offres et de demandes, évidemment. Mmh. Et puis surtout, on a des grosses tensions en termes d'achat de matières premières pour que nous puissions monter les vélos et les fournir au magasin.
On peut rappeler un petit peu l'histoire de Gitane qui va fêter ses 100 ans bientôt, c'est ça ?
Oui. Gitane, marque historique française, bien sûr, comme Peugeot, hein, de toute façon, puisqu'on est vraiment avec deux images propres qui sont très très fortes sur le marché français du cycle. Gitane, on était sur une marque plutôt orientée coursière dans ses années, ses premières années d'existence.
Les années 20, 30,
exactement. Et puis ensuite, avec des équipes Renault Sport sur cycle Gitane, par exemple, pendant différents Tours de France, surtout pendant les années 70-80. Aujourd'hui, c'est une marque qu'on oriente essentiellement sur le marché électrique, plutôt électrique urbain d'ailleurs, puisqu'on a fait des choix de segmentation de produits avec une libération, on va dire, des modèles sportifs et plutôt s'orienter sur des produits plutôt city et VTC. Exactement. Donc renouvellement de marque pour avoir des produits qui collent de plus en plus au marché.
En termes d'innovation, il faut plutôt se tourner vers Peugeot.
En termes d'innovation, plutôt se tourner chez Peugeot, effectivement, parce que cette année, avec le Covid, comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. Donc des projets qu'on avait mis en place de manière un petit peu plus lointaine chez Peugeot, où on travaillait déjà à vue il y a 2 ans, grosso modo. Et donc des projets qui voient le jour aujourd'hui pour 2021, malgré les tensions qu'on possède un petit peu sur le marché international.
C'est quoi ces grandes innovations ?
Les grandes innovations chez Peugeot, on va surfer sur plusieurs gammes de produits. On a une grosse famille qu'on appelle Legend chez nous. On va reprendre les vélos emblématiques avec le damier emblématique, vélo Bernardino, etc. qu'on va retrouver. Oui, exactement, comme tu as derrière toi. Et puis aussi une partie électrification aussi sur du modèle rétro ou néo-vintage.
Donc est-ce qu'on peut dire que finalement que c'est le meilleur des deux mondes, la classe, le look des vélos à l'ancienne et la technologie d'aujourd'hui, hein.
Bah c'est exactement ça, on peut parler même de néo-rétro. On vient de parler d'une grosse entreprise, mais au salon, il y a aussi les marques plus modestes qui misent sur une production artisanale. C'est le cas de Roadborne, une entreprise sartoise. Et je vous propose d'écouter Kevin, son cofondateur, qui nous parle du produit qu'elle fabrique.
Tout simplement, c'est une roue qui est assemblée à la main, artisanalement. On n'utilise pas du tout de machines comme les montages d'usine. Tous les montages sont faits à la main, et ce qui nous donne la particularité d'avoir moins de 5% d'écart de tension entre chaque rayon. Donc on a une roue qui est ultra équilibrée, réactive, performante et qui dure dans le temps.
Elle est montée où ?
En fait, on est basé dans un petit village, notre atelier à côté du Mans. Donc on est sartois.
Alors en termes d'innovation, la roue carbone, c'est ce qu'il y a de plus léger, c'est ça ?
Exactement, on est sur un produit ultra léger. Et les innovations aujourd'hui sur la roue carbone, ça va être principalement au niveau du moyeu avec l'apparition du disque. Aujourd'hui, la majorité des fabricants passent les cadres de vélo avec freinage disque et la principale innovation, elle est là-dessus.
Donc en termes de sécurité aussi, j'imagine que ça joue beaucoup.
Exactement, c'est le principal argument, c'est la sécurité au niveau de la capacité de freinage pour le cycliste.
Vos clients, c'est qui aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nos clients, c'est principalement les magasins, les professionnels, chez qui on propose nos produits. Et les clients peuvent retrouver nos roues chez les magasins de vélos spécialisés.
Merci beaucoup Thibaut pour ce petit tour d'horizon du monde du vélo. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. À bientôt Thibaut.
À bientôt Nathalie.
Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même radio. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en podcast sur sudradio.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.